الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، mes frères, commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala, le très clément, le tout miséricordieux, qui nous a donné cette opportunité de nous réunir dans sa maison pour prier, bien évidemment, pour accomplir la salat, mais également pour effectuer un humble rappel concernant quelques aspects en rapport avec notre dîn, notre religion. Mes frères, dans un verset du Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ » que ton Seigneur, notre Seigneur, il a créé, il est le Créateur, mais il n'est pas seulement le Créateur. Après avoir créé, Wayakhtar, Allah il a également porté son choix sur certaines de ses créatures. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, l'illustre savant, il nous dit que le choix d'Allah subhanahu wa ta'ala s'est porté aussi bien sur les créatures humaines que sur d'autres créatures. Parmi les créatures humaines, on sait que parmi toutes les créatures, Allah il a choisi les prophètes. Parmi les prophètes, Allah il en a choisi certains. Et plus particulièrement, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à qui Allah il a donné la supériorité par rapport à tous les autres prophètes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, de la même façon, il a porté son choix sur certains lieux et certaines périodes, certains jours de l'année, certains mois de l'année. Les jours qui viennent, justement, dans quelques jours, va débuter un mois très important, le mois de Zulhijjah. Et ce mois de Zulhijjah, il fait partie, justement, de ces mois qui bénéficient d'une valeur particulière durant l'année. Ça, c'est au niveau temporel. Mais même au niveau géographique, durant le mois de Zulhijjah, Alhamdulillah, il y a un certain nombre de personnes ici présentes qui vont avoir l'opportunité de faire un voyage et d'aller cette fois-ci visiter un lieu sur lequel le choix d'Allah s'est porté encore. C'est la ville de Mecca, Ummul Qura, comme le dit le Coran. Donc ce mois de Dhul-Hijjah, il a une valeur particulière. Alors, durant cette présente intervention, comme il a été rappelé par le frère, nous allons, Inch'Allah, essayer brièvement de dire quelques mots concernant l'acte d'adoration qui va être accompli dans les jours qui viennent, c'est-à-dire le Hajj. Mais nous n'allons pas évoquer le Hajj au niveau des règlements, etc. Ça a déjà été fait d'après ce qu'on m'a dit. Nous allons surtout, essentiellement, essayer de retenir quelques enseignements que nous pouvons retenir du Hajj. Quelques enseignements. Et ces enseignements que nous allons essayer de retenir d'après ce que les ulama nous ont enseigné, c'est essentiellement pour deux raisons. Vous allez voir que ces enseignements, ils sont importants pour ceux qui vont aller accomplir le Hajj. Ceux qui vont aller faire le voyage du Hajj, ces enseignements sont importants. Pourquoi ? Pour une raison simple. Vous savez autant que moi que quand on est conscient de la sagesse qu'il y a dans les actes que nous faisons, eh bien, la vitalité de ce que l'on fait est tout à fait différente. Ce n'est pas sans raison que le prophète, alayhi salatu wassalam, dans un hadith, Abu Huraira, radiyallahu anhu, il nous le raconte, vous connaissez le hadith mieux que moi. Le prophète, sallallahu alayhi salam, quand il décrit la récitation de la sourate al-Fatiha, dans la salah, que l'on fait dans la salah, qu'est-ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit ? Que lorsqu'on récite le début de la sourate al-Fatiha, alhamdulillahi rabbil alamin, yaqulullahu ta'ala, hamidani abdi. Comme a dit Ali sallallahu alayhi wa sallam, que mon serviteur a fait mes louanges. Et ainsi de suite. Durant chaque portion de la sourate Fatiha qui est récitée, le prophète alayhi salatu wasalam, il nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous répond. Il y a un dialogue qui s'établit. Vous savez pourquoi le prophète alayhi salatu wasalam, il nous parle de ce dialogue? Eh bien, pour une raison simple. C'est que justement, avant de prier, avant de commencer à prier, si nous gardons à l'esprit que la salat, c'est bien plus qu'une simple combinaison de gestes. Que la salat, c'est avant tout un moment privilégié où on dialogue avec Allah. Eh bien, cette même salat que nous faisons peut être carrément autre chose. Et ça, ça vient de quoi? Ça vient de la conscience de ce qu'il y a dans la salat. Eh bien, pour le hajj, c'est pareil. Pour le hajj, c'est exactement pareil. D'un côté, il y a les rituels du hajj. Ce que nous allons faire. Tawaf, sa'i bayn safa wal marwa, ya ramil jamarat, etc. Ce sont les rituels qui vont être accomplis. Oui. Mais ces rituels, ils nous enseignent quelque chose. Ils sont porteurs d'un message. Et ce message, quand on en est conscient, eh bien la qualité de ce que nous allons faire, la qualité de notre geste, sera beaucoup plus importante. Donc ça, c'est dans un premier temps pour ceux qui vont aller faire le hajj. Mais même ceux qui ne vont pas aller faire le hajj, vous allez voir les enseignements que l'on va rappeler, trois enseignements. Ces enseignements que l'on va rappeler, ça concerne tous les musulmans, pas seulement ceux qui vont faire le hajj. Tous les musulmans, où qu'ils se trouvent et à toute époque. Le hajj nous parle. Le hajj nous parle. Donc c'est pour ça que, inshallah, dans le temps qui nous a été imparti, nous allons aborder dans un premier temps cet aspect. Nous allons voir plus particulièrement trois enseignements que l'on peut, en réfléchissant un peu, essayer de déduire à partir des rituels du hajj. Et dans un deuxième temps, inshallah, si le temps nous le permet, nous ferons un bref rappel à l'attention donc de ceux qui vont aller accomplir le hajj concernant la préparation au niveau psychologique, au niveau matériel, etc. Bon, ça, n'est pas notre sujet, mais surtout dans la relation avec Allah, comment on doit anticiper, comment on doit préparer ce voyage très rapidement. Et puis pour conclure rapidement, quelques mots sur ce mois de Zulhijja qui arrive. Chacun d'entre nous allons le vivre. Il y a des mérites exceptionnels qui ont été énoncés par le prophète alayhi salatu wassalam par rapport à ces jours. Eh bien, juste rappeler ces mérites-là pour que, inshallah, encore une fois, le moment venu, nous puissions profiter de ces jours comme il se doit. Donc, nous allons commencer par les enseignements que les ulama nous disent que l'on peut extraire à partir du hajj. La première leçon, la première chose que nous enseigne le hajj, vous savez, c'est quoi? Le hajj, c'est un rappel de ce que nous sommes. Ou plutôt, pour rester humble, de ce que nous devrions être. Muslimoun. Muslim, c'est quoi muslim? Muslim, par définition, c'est celui qui est soumis à Allah. Celui qui est soumis à Dieu. C'est lui que l'on appelle muslim. Le hajj, c'est une leçon d'islam. Al-islam ou al-istislam, c'est les deux. C'est le fait de se soumettre volontairement à la volonté de Dieu. Ça, c'est la première chose à apprendre du hajj. Comment? Eh bien, pour mesurer comment le hajj nous enseigne la soumission, il faut revenir sur certains éléments que nous faisons, certaines attitudes que nous adoptons durant le hajj. Premièrement, durant le hajj, celui qui va accomplir le hajj, eh bien, il adopte un certain nombre d'attitudes qui, quand on y réfléchit, il est un peu difficile de comprendre le pourquoi. Parfois, quand on réfléchit sur ce qui se fait lorsqu'on va faire le hajj, on a des difficultés de voir la rationalité de la chose, de se dire, mais pourquoi on fait ça? Quelques exemples. Dans la vie de tous les jours, quand on a un rendez-vous, plus le rendez-vous il est important, et plus on accorde de la considération à notre tenue. On fait attention à notre apparence. On ne s'habille pas de la même façon quand on se rend à un mariage que quand on va manger chez soi. Ce n'est pas la même chose. Et ce n'est pas seulement matériel. Quand vous revenez vers le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit ?« Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid » Que même, les mufassirins nous disent, que cette injonction, de façon générale, la globalité des termes, fait que cette injonction constitue une exhortation à porter ses plus beaux vêtements lorsqu'arrive le moment de la prière. C'est ce que le prophète alayhi salatu wasalam, il faisait. Plus particulièrement lorsqu'il arrivait à Salatul Jum'ah. Le prophète alayhi salatu wasalam, il a encouragé les compagnons à se parfumer, à porter leurs plus beaux vêtements. Pour la salat de Eid, c'était exactement pareil. Pourquoi ? Parce que ce sont des occasions exceptionnelles. Plus l'occasion est importante, plus on fait attention à notre tenue vestimentaire. Dans le Hajj, qu'est-ce qui se passe ? Les hommes et les femmes vont se rendre dans le lieu le plus saint qui existe sur terre, Mecca. Ils vont aller visiter la maison de Dieu sur terre. Awwal bayt wudi'a lin-nas. La première maison qui a été édifiée pour les gens. Ibrahim alayhi salatu wasalam, qui se trouve à Mecca. On va aller visiter la terre sacrée. On va aller accomplir un rendez-vous exceptionnel. Le voyage le plus important de notre vie, qui est le Hajj. Et pourtant, qu'est-ce qui est ordonné aux hommes ? Vous enlevez tous vos vêtements et vous portez deux pièces d'étoffe, les plus simples qui soient. Parfum interdit. Plus de parfum. La coiffe, coiffure, non, vous ne touchez pas vos cheveux. Vous les laissez tels quels. C'est ça. Rationnellement, après coup, en prenant de la distance, quand on y réfléchit, on se dit, pourquoi ? On se pose la question, pourquoi ? Un exemple. Deuxième exemple. Juste pour vous montrer que lorsqu'on fait le Hajj, il y a des choses qu'on n'arrive pas à percevoir le pourquoi. Deuxième exemple. Vous savez que les hommes, lorsqu'ils font le tawaf, les trois premières rotations du tawaf, il est sunna de faire des petits pas rapprochés en remuant les épaules, en augmentant un peu l'allure, ce que l'on appelle ar-raml. C'est sunna. Quand on revient vers les hadiths, on constate que le raml, à l'origine, avait une motivation. C'est-à-dire que le prophète, alayhi salatu wasalam, lorsque les musulmans étaient revenus à Mecca, eh bien les gens de Mecca, les païens, les non-musulmans, ils avaient dit que, ouais, eux, ils étaient partis à Madina, ça y est, ils sont devenus faibles, ils ne sont plus des hommes. Nous, les Mekois, on a encore la force physique. Eux, là-bas, ils sont tombés malades et tout, à Yasrib, à Madina, là-bas. Donc, ça va, il n'y a rien à craindre d'eux. Le prophète, alayhi salatu wasalam, quand il a entendu ça, qu'est-ce qu'il a dit aux compagnons ? Que lorsque vous allez faire tawaf, vous allez montrer la force. Et c'est ça qui a été institué. La raison d'être de ce geste était valable il y a 14 siècles. Aujourd'hui, les Quraysh de Mecca, les païens, ils ne sont plus là. Mais on continue à le faire. Ça n'a pas changé. La raison, la motivation principale a disparu, mais on continue à le faire. Troisième exemple. Ramyul Jamarat. D'ailleurs, souvent la question vient. C'est vrai que souvent, par respect, on n'ose pas poser les questions. Mais c'est vrai que parfois, il y a des jeunes, notamment, c'est l'avantage des jeunes, c'est qu'ils osent poser les questions, ils se disent pourquoi on jette des millions de cailloux chaque année à ces endroits, et après, il faut qu'il y ait des dizaines de camions qui viennent ramasser tous ces cailloux, tout nettoyer et remettre en ordre. On leur explique, oui, mais ça, à l'origine, Ibrahim, alayhi salatu wasalam, c'est un peu pour perpétuer, comme Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, il nous dit, que c'est pour perpétuer le geste Ibrahim alayhi salatu wasalam, qui lorsqu'il était en chemin pour aller égorger Ismaïl alayhi salatu wasalam, comme il avait reçu l'ordre de Dieu, Shaitan s'était présenté à lui à trois occasions. Ibrahim alayhi salatu wasalam, il avait lapidé Shaitan avec les cailloux, sept fois, en trois occasions. Et c'est ce geste que nous perpétuons aujourd'hui. Mais aujourd'hui, quand on regarde, qu'est-ce qu'on voit ? Une stèle et des millions de gens en train de frapper. C'est tout ce qu'on voit. On ne voit pas Shaitan. Et pourtant, on le fait. Eh bien, c'est ça. Ça, c'est la force du Hajj. La force du Hajj, c'est qu'il nous pousse à faire des choses que peut-être on ne comprend pas forcément. Mais pour une fois, on arrive à se dire, je le fais parce qu'Allah et son prophète m'ont demandé de le faire. C'est tout. Je ne vais pas chercher midi à 14h. Et c'est ça, l'islam. Le véritable sens de l'islam, c'est ça. Attention, je ne dis pas que en islam, le musulman ne doit pas se poser des questions. Pas du tout. L'islam ne nous a pas enseigné d'éteindre notre cerveau et de suivre aveuglément. Ce n'est pas du tout ça. Au contraire, Allah dans le Coran, vous le savez autant que moi, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Inna fi khalqi as-samawati wal-ardi wa-ikhtilafi al-layli wan-nahar la-ayatin liqawmin ya'qilun. Il exhorte à l'usage de la raison. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il condamne l'attitude de ceux qui ne croient pas, qu'est-ce qu'il dit? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Qu'ils ont des cœurs mais qui ne les servent strictement à rien. Ils ne comprennent rien du tout. La raison est une faculté qu'Allah nous a donnée, qui est essentielle, qui nous différencie des animaux, et que l'on doit utiliser, bien évidemment. C'est essentiel. Et c'est bien pour cette raison que les compagnons, souvent, ils questionnaient le prophète, sur le pourquoi des choses. Et ce n'est pas seulement les compagnons, mais les sahabiyat. C'est vrai que parfois, aujourd'hui, dans notre dîn, on a parfois tendance à se dire que, oui, non, mais on vous a dit, il faut le faire, on le fait, on ne pose pas de questions. L'histoire, elle est connue. Le jour de Eid, quand le prophète, alayhi salatu wassalam, il était parti avec Bilal, radiyallahu anhu, faire la khutbah auprès des femmes. Et lorsqu'il leur a dit un certain nombre de choses, et dans le hadith de Sahih Bukhari, il est dit que les femmes l'ont tout de suite interpellé. Que tu dis telle chose. Mais pourquoi donc? Pourquoi est-ce que tu dis que les femmes, malgré leur déficience au niveau de la mémoire, etc., elles arrivent à prendre le dessus sur les hommes? Quelle est notre déficience au niveau de la mémoire? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Et vous dites que les femmes ont une déficience par rapport aux hommes dans la pratique du dîn. Pourquoi? Les femmes interpellent le prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam ne leur répond pas, j'ai dit, c'est comme ça. Non, il leur explique. Il leur dit, ce que j'ai voulu dire, c'est faire allusion d'abord au verset du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrété que dans les transactions, en ce qui concerne les emprunts, etc., il y a une possibilité plus forte que les femmes fassent preuve d'oubli. Donc c'est pour ça, Allah il a institué le témoignage de deux femmes qui sera équivalent à celle d'un homme, à celui d'un homme. C'est à ça que je faisais allusion quand je parlais du problème de mémoire. Et n'est-il pas vrai que lorsque vous êtes en état de hayz, en état de menstru, vous ne priez pas une partie du mois? Les femmes elles disent oui, effectivement. Le prophète alayhi salatu wassalam dit c'est à ça que je faisais allusion, que je disais que les hommes ont un avantage par rapport à vous. Vous voyez? Les femmes, même les sahabiyat, elles questionnaient, elles interpellaient le prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il prenait le temps d'expliquer. Donc la raison, c'est essentiel. Mais attention, attention à ne pas prendre les choses par le mauvais bout. La raison, oui, mais la raison est toujours soumise à l'ordre de Dieu. Quand on a un commandement, un hukm qui vient de la part d'Allah, le musulman, ce n'est pas celui qui se dit « j'obéis si je comprends ». Non. Le musulman qui dit « j'obéis », oui, si je comprends, excellent, « nourun ala nour », si je ne comprends pas, je le comprendrai un jour. Parce que mon Seigneur, c'est « al-hakim », c'est le sage par excellence. Mon Seigneur, c'est le Rab, c'est le Créateur. C'est celui qui connaît tout, qui est l'omniscient. Et moi, je suis un microbe, même pas un microbe dans l'univers. Donc, avec ma petite raison très limitée, je ne vais pas essayer de conditionner mon obéissance à Dieu à ce que je ne suis même pas capable de comprendre. Souvent, je donne l'exemple, c'est comme vous avez un prof d'université qui vient dans une classe de CM1, allez, ou bien même une classe de 6e, et qui explique la théorie de la relativité générale d'Einstein. Il explique ça aux petits. Et il fait des démonstrations sur le tableau avec tous les schémas et tout. Et les petits qui regardent comme ça et qui disent « Ouais, c'est bien beau. » Mais c'est du n'importe quoi. Est-ce que le jugement de ces jeunes à ce moment a une quelconque valeur? Pas du tout. C'est juste qu'ils n'ont pas le niveau adéquat pour comprendre ce qu'il leur a expliqué. C'est aussi simple que ça. Le musulman, il doit garder cette humilité de se dire que avant tout, je suis musulman. Et c'est ça que le hajj nous enseigne. Le hajj nous enseigne qu'on obéit d'abord, on comprend en même temps si on le peut, et si on ne comprend pas, ça ne fait rien. On pourra toujours questionner Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement dernier. Mais ici, on obéit à Allah. C'est ça qui nous est demandé. Et d'ailleurs, le hajj, vous savez, le hajj, quand quelqu'un va faire le hajj, qu'est-ce qui se passe? Il répond à l'appel de Ibrahim alayhi salatu wassalam. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ أَتُوكَ رِجَالًا. C'était un ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala il avait donné à Ibrahim alayhi salam d'inviter les gens. Ibrahim alayhi salam il avait posé la question, mais il n'y a personne, j'invite qui? Allah lui a dit, tu appelles les gens et ils viendront le moment venu. Et jusqu'aujourd'hui on continue à répondre à l'appel d'Ibrahim alayhi salam. Le hajj, il a un lien avec Ibrahim alayhi salam, un lien direct, on l'a vu. Ramyu al-jamarat, ce sont des actes d'Ibrahim alayhi salatu wa salam. As-sa'yu bayna as-safa wal-marwa, c'est ce que Hajar alayhi salatu wa salam elle avait fait. Le Le tawaf de la Kaaba, c'est la Kaaba qui a été édifiée par Ibrahim alayhi salatu wassalam. Le hajj a un lien profond avec le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam. Et vous connaissez autant que moi les qualificatifs de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Il était le Khalilullah, oui, mais dans le Coran, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Ibrahim alayhi salatu wassalam, un des titres que lui donne le Coran, c'est qu'il était Hanif. Hanif, si on voudrait traduire, ça veut dire qu'il s'était détourné de toute autre chose pour se consacrer, pour se tourner et se soumettre exclusivement à Allah. Ibrahim alayhi salatu wassalam, c'est pas pour rien qu'on dit qu'il était le champion du tawhid, le champion du monothéisme. Ibrahim alayhi salatu wassalam, justement, ce qui le caractérisait en quelque sorte, c'était sa soumission extraordinaire. L'acte que nous allons commémorer dans quelques jours, Al-Uzhiya, on l'oublie souvent. Mais il faut prendre le temps de se dire qu'à l'origine, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné à Ibrahim de sacrifier son fils unique, est-ce que c'était quelque chose de facile à faire? Non, pas du tout. Ibrahim alayhi salatu wassalam, c'était un être humain qui aimait son fils. Et pourtant, lorsque l'ordre d'Allah est venu, il n'a pas cherché midi à 14h. Il s'est soumis à Allah. Et c'est pour ça que le Coran nous dit « Huwa sammakum al-muslimin ». C'est de Ibrahim alayhi salatu wassalam que vous tenez le titre de muslim, soumis. C'est ça. Et ça, c'est la première leçon du hajj. Le hajj, pour ceux qui vont aller l'accomplir, mais également pour nous qui restons ici, c'est la même leçon. C'est qu'en tant que musulmans, nous avons une obligation, c'est de nous soumettre de façon inconditionnelle à Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième chose que le hajj nous donne l'opportunité d'apprendre et de développer, c'est une qualité essentielle. Hubbullah. L'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez autant que moi que lorsqu'on va faire le hajj, depuis le moment où on commence les préparatifs du hajj, jusqu'au moment où on va aller accomplir les rituels, pratiquement chaque action et chaque attitude que l'on va accomplir témoigne de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le hajj, c'est d'abord, bien évidemment, dépenser de l'argent. On dépense de l'argent pour qui, pourquoi? Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le hajj, c'est un effort physique considérable. On va abandonner notre confort pendant quelques jours, pendant quelques semaines. On va se rendre à Mecca, on va faire un voyage assez éprouvant, pour ne pas dire plus, avec des millions de personnes, où ce ne sera pas aussi simple, l'espace vital, il va se réduire de façon assez considérable. Le tawaf, Sa'i ben al-Safa wa al-Marwa, c'est une aventure, c'est très bien, c'est une expérience à vivre, mais on le fait. Pourquoi? Pour Allah. Quand on prend l'attitude du haji lorsqu'il fait le tawaf, vous savez, il ressemble à quoi? L'imam Az-Razali, rahimahullah, il dit que le haji, lorsqu'il fait le tawaf, il est exactement comme un bien-aimé qui a perdu la tête, qui tourne autour de la maison de sa bien-aimée. C'est un peu comme ça, non? Quand on va faire le hajj. Quand on va faire le hajj, on fait le sa'i, bayna as-safa wal marwa. On court, exactement comme Hajar alayhi salatu wassalam l'avait fait. Et on court, pourquoi? Encore une fois, pour exprimer sa dépendance et son amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le haji, plus particulièrement les hommes, quand ils sont en état d'ihram, ils ne se soucient plus de leur apparence physique. Ils sont couverts de poussière, ils ont les cheveux ébouriffés, l'ihram parfois qui tombe, on est obligé de remettre. Mais là, on s'oublie de tout ça, on oublie tout ça. Pourquoi? Encore une fois, avec du recul, quand on regarde l'attitude, c'est l'attitude d'un amoureux qui perd la tête pour sa bien-aimée. Eh bien, le hajj, c'est ça. Les ulama, ils nous disent que le hajj, c'est une occasion d'exprimer, de manifester l'amour que l'on a pour Allah subhanahu wa ta'ala. On oublie tout le reste et on se consacre à Allah. Et justement, cet amour pour Allah, de plus en plus, malheureusement, il s'est affaibli dans nos cœurs. Il s'est affaibli. Et c'est cet affaiblissement de l'amour d'Allah dans nos cœurs aujourd'hui. Et pourquoi je dis affaibli? Parce que je vais citer dans un instant un exemple. L'amour que les compagnons ils avaient pour Allah. Et c'est là qu'on voit que oui, il n'y a pas photo, vaut mieux laisser tomber. On est ce qu'on est. Aujourd'hui, cet affaiblissement de l'amour d'Allah, il est à la source de beaucoup, beaucoup d'actes de désobéissance et de problèmes dont nous nous montrons coupables. Pourquoi? Parce que justement, l'amour d'Allah, il s'est affaibli. Ou peut-être même plus. Peut-être même plus. Quelques petites questions simples que chacun d'entre nous, on doit se poser. Pour mesurer un peu l'amour d'Allah qu'il y a en nous. Parce que c'est vrai qu'on va se dire, non, mais en tant que musulman, moi j'aime Allah. Entre proclamer que j'aime Allah et aimer réellement Allah, il y a un monde, un univers. Question simple, quelques petites questions simples. Combien d'entre nous sommes aussi affectés lorsque nous sommes en retard à un rendez-vous professionnel important, capital, que lorsque nous sommes en retard pour la santé? Est-ce que la réaction est la même? Pas vraiment. Combien d'entre nous avons la même attitude lorsque on vient d'acheter quelque chose, allez, pas une voiture neuve, allez, on va prendre, je sais pas, un grand remplacement, on vient d'acheter, et on a notre fils à la maison qui arrive et qui balance l'écran par terre, qui casse l'écran. Là, on a quand même une certaine réaction. Et quand ce fils, il ne se réveille pas pour faire la salade Fajr le matin, est-ce qu'on a la même réaction? Quand il brise un des commandements de Dieu les plus importants, le premier au sujet duquel on va être questionné, est-ce qu'on a la même attitude? C'est à se demander. Et d'ailleurs, l'enfant, il comprend ça parfaitement bien. C'est-à-dire que les enfants, il y a un discours que l'on fait lorsqu'on éduque les enfants, et puis il y a ce qu'on éduque, ce que l'on montre aux enfants par notre attitude. On peut répéter du matin au soir que ce qui compte, c'est Allah, il faut obéir à Allah. Mais quand il voit que du matin au soir, tout ce qui compte pour nous, c'est l'argent, l'honneur et tout le reste, et que finalement Allah, c'est le soir quand il reste un petit peu de temps, on peut raconter tout ce qu'on veut, ce qu'il va retenir, c'est que finalement tout ce qui compte, c'est l'argent, l'honneur et tout le reste. Allah, c'est quand on a un petit peu de temps. Encore, on poursuit les questions. Quand on a un enfant qui nous ramène son bulletin à la fin du trimestre et que les notes ne sont pas vraiment ça et qu'on a fait beaucoup d'efforts pour l'aider à bien travailler à l'école. Là aussi, généralement, on ne l'accueille pas vraiment en disant « Mais mon petit, viens, on va discuter. » Non, non, généralement, c'est assez violent. Et par contre, combien de fois il nous arrive de lui demander « Est-ce que mon fils... tu as appris quelques sourates du Coran. Combien de sourates du Coran tu connais? Combien de noms de compagnons tu connais? Est-ce que tu sais un petit peu de la vie du prophète alayhi salatu wassalam? On va s'inquiéter de savoir, est-ce que tu connais bien, tu as bien couvert tout le programme scolaire? C'est essentiel. Mais combien tu sais de ton dîn? C'est autre chose. Eh bien, autre exemple. On a une envie. S'acheter une voiture, par exemple. Ça, c'est une envie. De l'autre côté, on a un ordre d'Allah. Interdiction de riba. Interdiction de l'intérêt. On a un choix à faire. Bien là, on se pose la question. Dans ce genre de choix, est-ce que je fais dominer mon envie ou le commandement de Dieu? Et c'est quand on a répondu à toutes ces questions qu'on peut se dire que oui, Allah, il a une place dans mon cœur. Et de façon plus générale, le moyen le plus simple de savoir quel est... Il y avait un savant qui disait, si tu veux connaître quelle est ta place auprès de Dieu, questionne-toi sur la place que tu accordes à Dieu dans ton cœur. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Si on ne pense qu'à Allah, parce que très souvent, malheureusement, même durant la prière, le moment où on est en relation avec Allah, même là, on est en train de penser à autre chose. Vous savez, les seuls vrais moments où on arrive à prendre conscience, à penser à Allah, c'est triste, mais c'est comme ça, c'est qu'on a un décès dans la famille. C'est triste, mais c'est comme ça. C'est là où on se remet un petit peu en question. Mais sinon, la vie est ainsi faite que tout va tellement vite qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est mis de côté. Eh bien, c'est ça qui explique beaucoup de nos problèmes aujourd'hui. Et ça, c'est la grande leçon du hajj aussi. C'est que l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas quelque chose de secondaire. Non. L'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose qui doit être central, qui doit constituer une priorité pour nous. Exactement comme l'amour d'Allah et de son messager était une priorité pour les compagnons. Deux récits que vous connaissez. Mais justement, le fait de rappeler ces récits nous permet de comprendre combien la voie est encore longue. Combien la voie est longue. Premier récit, c'est ce compagnon. Ce compagnon qui est dans son jardin, qui est en train de s'occuper de son jardin. Il y a quelqu'un qui vient lui dire, qui dit « J'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Le prophète, alayhi salatu wasalam, il a quitté ce monde. » La réaction de son compagnon, c'est quoi? Il lève les mains, il fait droit. « Oh Allah, enlève ma vue immédiatement parce que maintenant que le prophète n'est plus là, je veux que l'une des dernières choses que j'ai vues, ce soit le prophète, alayhi salatu wasalam. » Ça, c'est l'amour d'Allah et de son prophète. Et c'était pas juste des prétentions, non. C'était des doigts qu'ils faisaient du fond de leur cœur. Deuxième exemple. Huzafa As-Sahmi, radiyallahu anhu. Lorsqu'il va avec un groupe de compagnons, ils sont dans une campagne militaire, à l'époque, comme c'était courant. Ils sont faits prisonniers par un gouverneur non musulman à l'époque. Ils sont à peu près, un peu moins d'une centaine. Ils sont faits prisonniers et le chef du groupe, c'est Huzafa As-Sahmi, radiyallahu anhu. Et là, le gouverneur de la région, qui est non musulman, tente de contraindre Huzafa, radiyallahu anhu, et les autres musulmans d'abandonner l'islam, de quitter l'islam. Et Huzafa, il dit non, je ne quitte pas l'islam. Pas question. Le gouverneur, il va tout tenter. Méthode douce, méthode dure, tout. D'abord, il va proposer sa fille en mariage à Huzafa, radiyallahu anhu. Huzafa lui dit, non, ça ne m'intéresse pas. Il va lui proposer de l'argent, ça ne m'intéresse pas. Il va l'emprisonner. D'après une version, il est dit qu'il est resté 3 jours en prison, on ne lui a donné rien à manger, rien à boire. Au bout de 3 jours, on lui amène un morceau de porc et un peu de vin. Et il dit que Dieu m'a autorisé de manger et de boire ça dans ces conditions pour sauver ma vie. Mais vu que ça va contenter mon ennemi, je laisse tomber. Je préfère mourir. Ils disent, non, il y a un problème, il faut qu'on trouve une solution. Et finalement, on l'amène, on l'attache à un poteau, et on demande à des archers de tirer, de décocher des flèches tout autour de lui, pour le faire peur. Il regarde tout le monde, il dit, non, je ne vais pas abandonner l'islam. Alors que vous savez, autant que moi, dans le Coran, c'est écrit que quand on est contraint, en apparence, on peut prononcer une parole de kufr. La waqalbuhu mutma'innun bil iman. À partir du moment où le cœur est serein par rapport à l'islam, on peut. Mais ça, c'était les compagnons. Les compagnons, c'était comme ça. Donc, il ne fait rien. Après, finalement, ils trouvent une autre solution. Ils disent que voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire bouillir une marmite. Alors, il y a deux versions du récit. Dans une version, c'est de l'eau. Et dans une autre version, c'est de l'huile. On va bouillir une très grande marmite d'huile. Et on va te jeter à l'intérieur. Zafar, radiyallahu anhu, il dit, si c'est comme ça, ce sera comme ça. Et pour le montrer le sérieux de la chose, ils prennent d'abord un autre musulman qui était prisonnier et ils le jettent dans l'huile bouillante. Et ce musulman, il meurt shahid tout de suite, immédiatement. Zafar, radiyallahu anhu, il voit ça, ça l'affecte, bien évidemment. Mais il reste prêt. Et après, on dit, maintenant, c'est ton tour. Et là, on commence à l'amener devant la grande marmite. Et là, il commence à pleurer. Quand il pleure, les ennemis, les musulmans, ils se disent, ça y est, c'est bon, il a compris, il va céder. Et là, on lui dit, ça y est, enfin, t'acceptes de renier l'islam? Il dit, non, c'est pas pour ça que je pleure. En fait, ce qui me fait pleurer, c'est que finalement, Allah, il m'a donné une vie. Et là, je vais perdre cette vie-là, ici. Alors que moi, j'aurais aimé avoir autant de vie que j'ai de poils sur mon corps pour toutes les sacrifier pour Allah. C'est ça qui me fait pleurer. Quand le gouverneur, il entend ça, il dit, c'est pas possible. Avec ces gens, on ne pourra rien faire. Il demande une chose. Il dit, ok, d'accord, je vais te libérer à une condition. Tu embrasses mon front. C'est tout ce que je te demande. Huzafa, il dit, je peux embrasser ton front, mais à une condition, c'est que tu ne me libères pas moi seulement, mais tous mes compagnons, tous mes amis. Le gouverneur, il doit sauver son honneur, il dit d'accord. Et Huzaifa, il va, il embrasse le gouverneur sur le front. Quand il rentre, c'était à l'époque de Omar radiallahu anhu, le califat de Omar. Quand ils rentrent, ils arrivent à Médine, Omar radiallahu anhu, il entend la nouvelle, le récit. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est un devoir pour tous les musulmans d'embrasser le front de Huzaifa. Et il commence par embrasser le front lui-même. Ça, c'était l'amour des compagnons pour Allah et son prophète. Et le jour du Qiyama, on ne pourra pas venir devant Allah et dire « Allah, mais ça, c'était les compagnons, ça. Nous, on vivait à la Défense, 21e siècle. Pas pareil. Non ? Non ? Allah qui était présent il y a 14 siècles, c'est le même Allah. Les compagnons, c'était des êtres humains comme nous. Bien meilleurs que nous. Je parle de la physionomie humaine. C'est-à-dire qu'ils étaient faits en chair et en sang exactement comme nous. Ils avaient des envies, des passions comme nous. Et pourtant, qu'est-ce qui a changé? C'est la place de l'amour d'Allah qu'il y avait dans leur cœur. C'est ça qui a tout changé. C'est ça qui a fait que Omar radiallahu anhu, quand il part pour aller porter atteinte à la vie du prophète alayhi salatu wassalam, le lendemain, il devient un des plus grands compagnons. Et quelques années plus tard, il devient le deuxième calife. C'est quoi qui a changé? C'est la vision et l'approche qu'ils avaient d'Allah subhanahu wa ta'ala dans leur cœur. Et c'est ça qui nous fait défaut aujourd'hui. C'est ça qui nous fait défaut. Et c'est ça que le hajj nous enseigne. Deuxième enseignement du hajj. Troisième, oui, et par rapport à ça aussi, j'avais oublié juste une chose, c'est que aujourd'hui, justement, on a vu que le fait d'avoir perdu cet amour d'Allah, bon, non seulement il est à l'origine de beaucoup de péchés, mais ça a des conséquences encore beaucoup plus graves dans notre vie de tous les jours. C'est qu'aujourd'hui, le fait que Allah n'ait plus sa place dans notre cœur fait que nous sommes en train de nous diluer dans la société. C'est comme ça. Quand on ne prend pas Allah comme Seigneur, on devient comme le prophète alayhi salatu wasalam, il avait dit, Abdud dinar wa dirham. On devient l'esclave de tout et de n'importe quoi. L'esclave de l'argent, l'esclave de la publicité, l'esclave de la mode, l'esclave de tout et n'importe quoi. Mais c'est comme ça. Quand on y réfléchit aujourd'hui, très souvent dans cette société de consommation dans laquelle on vit, on croit acheter parce qu'on a envie de quelque chose. C'est pas ça. C'est que cette envie a été artificiellement créée par le contexte dans lequel nous vivons. Et c'est bien cette fibre-là que les gens qui font de la publicité savent si bien exploiter. Aujourd'hui, on peut faire de nous ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut, on peut faire de nous. Pourquoi? Ben parce que justement, on a perdu cet amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui est soumis à Allah, celui qui donne de la place à Allah dans son cœur, la servitude envers Allah, aussi paradoxale que cela puisse paraître, lui donne la plus grande des libertés. Et c'est ça qui faisait la liberté des compagnons. Être esclave de Dieu, c'est être le plus libre des hommes. C'est comme ça. Et refuser la soumission envers Allah, c'est être esclave, non pas seulement de l'homme, mais également de la machine. Téléphone portable. Aujourd'hui, on est esclave de notre téléphone portable. Vous savez, même à table, je parle pour moi, hein, même à table, on regarde trois fois s'il n'y a pas un mail qui est arrivé. Et on s'imagine, il y a 10 ans de ça, on ne savait même pas que ça pourrait exister quelque chose comme ça. Mais aujourd'hui, c'est devenu indispensable. Internet aujourd'hui, vivre sans Internet, quand on fait un voyage, on se rend dans un pays où on n'a pas un accès, on tourne un peu en rond. Surtout ceux qui sont habitués avec Facebook et compagnie, on ne sait plus comment on va faire. Ça ne va pas. Et pareil, 15 ans, Internet, c'était quoi? C'était des ordinateurs qui représentaient la moitié de cette pièce. Internet, c'était juste réservé à l'armée, c'est tout. Internet, les gens, on ne connaissait pas trop Internet. En 15 ans, on est devenu esclave d'éléments qui, il y a une quinzaine d'années, on ne savait même pas que ça existait ou que ça existerait. C'est comme ça. Et tout ça, pourquoi? Parce que justement, on a laissé le cœur vide. Le cœur, quand il est vide, quand il n'y a plus l'amour d'Allah dans le cœur, Hubbullah, il a disparu, eh bien c'est Hubbul Shahawat, Hubbul Dunya, Hubbul Mal, tout le reste qui entre et qui fait sa place à l'intérieur. Eh bien le Hajj, c'est l'occasion de nettoyer ce cœur et de redonner de la place à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et enfin, troisième enseignement du Hajj, Vous connaissez la sourate Al-Hujurat. Dans la sourate Al-Hujurat, il y a un verset du Coran que l'on répète souvent. Ya ayyuhannas, inna ja'alnakum, inna khalaqnakum min dhakari wa unsa, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'il li ta'arafu. Allah subhanahu wa ta'ala, il explique la sagesse qu'il y a dans la création et la répartition des hommes entre différentes races et différentes ethnies. Allah, il nous donne que la sagesse, c'est quoi ? C'est justement pour que l'humanité apprenne à se connaître mutuellement. Avec la diversité des coutumes, la diversité des langues, la diversité des couleurs, eh bien l'être humain, il apprenne que la richesse de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, lita'arafu, afin que vous appreniez à vous connaître mutuellement. Et après Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit ? Inna akramakum indallahi atqakum. Que la différence de couleur, la différence d'origine, la différence d'ethnie, la différence de race, ce n'est pas ça qui vous rapproche de Dieu. Non. Inna akramakum indallah. Le plus noble d'entre vous, atqakum, c'est celui qui a développé la plus grande crainte d'Allah. C'est ça. Le critère, c'est ça. C'est exactement ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait dans un autre hadith, en d'autres termes. Inna Allah la yandhuru ila suwarikum wa la ila ajsadikum, comme a dit alayhi salatu wa sallam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne regarde pas vos visages et vos corps. Walakin yandhuru ila qulubikum wa a'malikum, ou comme a dit alayhi salatu wa sallam. Ce qui fait l'objet d'attention de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont vos actes et ce qu'il y a dans votre cœur. C'est ça qui compte. Le fait que l'on considère les différences de race et que l'on, comme étant une source de supériorité, comme cela a pu être conçu à certaines époques et encore aujourd'hui, le fait que l'on regarde quelqu'un qui ne partage pas la même langue que nous, la même culture que nous, la même couleur que nous, comme quelqu'un d'inférieur à nous, ça c'est quelque chose que l'islam a combattu depuis son arrivée. Dès que l'islam est arrivé, l'une des premières choses qui a été combattue, c'est ça. C'est que la différence, toutes les différences, parce que ça c'était très présent chez les Arabes. Chez les Arabes de l'époque de la révélation, ce complexe de supériorité, de se considérer que telle tribu est meilleure que telle tribu, tel peuple est meilleur que tel peuple, ça c'était très présent. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a condamné très sévèrement tout cela. Et ce n'est pas pour rien que le mu'adhin du prophète alayhi salatu wassalam, celui que le prophète alayhi salatu wassalam a questionné en disant « Mais quelle est donc cette action que tu fais et qui fait que je t'ai entendu marcher devant moi fil jannah, dans le paradis ?» Il parlait à qui ? Bilal, Habshi, radiyallahu an. Le mu'adhin du prophète alayhi salatu wassalam. Eh bien ça, c'est l'enseignement de l'islam, c'est l'égalité de tous les hommes. La seule chose qui peut donner une supériorité à un être par rapport à un autre, c'est la crainte d'Allah qui sera dans son cœur. Plus on aura développé la crainte d'Allah, la taqwa, et plus on se rapproche d'Allah. Eh bien le hajj, c'est l'occasion parfaite pour reprendre conscience de ça. Même pas besoin de faire de photos, de dessins, on comprend. Durant le hajj, tout le monde est soumis aux mêmes règles. On peut être millionnaire, milliardaire ou dormir dans la rue, chez soi. Mais lorsqu'on arrive à Mecca, ce sont les mêmes règles pour tout le monde, pas de dérogation. Mêmes règles, mêmes tenues, mêmes obligations, mêmes interdictions. L'égalité la plus parfaite. Et lorsqu'on accomplit le hajj, celui qui sera le plus proche d'Allah sera celui qui aura fait le plus attention à accomplir son hajj correctement. C'est tout. Son compte en banque, le jour du Qiyama, on ne lui demandera pas combien tu avais en banque, combien tu as dépensé, est-ce que tu as dépensé 10% de ta fortune pour venir, là ton hajj aura plus de valeur. Non. Tout le monde a exactement le même mérite en fonction de ce qu'il agit, en fonction de sa sincérité, en fonction de la conformité. Et ça, c'est ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il avait rappelé justement. Le prophète, alayhi salatu wassalam, une fois, il avait fait un sermon, une khutbah. Et qu'est-ce qu'il avait dit dans cette khutbah ? Ya ayyuhannas, ô les gens, ala inna rabbakum wahid. Écoutez bien, votre Seigneur, il est unique. Il y a un seul Dieu. Wa inna abakum wahid. Et votre Père, il était un aussi. Vous descendez tous du même homme. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit ensuite, ala, écoutez bien, la fadla li arabiyin ala ajami. Point de supériorité de l'arabe sur le non-arabe. Wala li ajamiyin ala arabi. ni de non-arabe sur l'arabe. Wala ahmar ala aswad. Ni pour celui qui a une teinte rougeâtre, une couleur rougeâtre, celui qui est brun, par rapport à celui qui est noir. Non. Et ensuite, le prophète, alayhi salatu wasalam, il dit, illa bit taqwa, si ce n'est par la crainte d'Allah qui anime votre cœur. Ensuite, le prophète, alayhi salatu wasalam, il prend les compagnons en témoin et il dit, al-ballakhtu, est-ce que j'ai fait parvenir le message? Et vous savez, le prophète, alayhi salatu wasalam, quand est-ce qu'il a dit ça? Eh bien, c'était justement durant le pèlerinage à Dieu, Hajjatul Wida, alors qu'il était à Mina. C'était un des sermons qu'il a prononcé devant les 124 000 compagnons qui étaient présents à ce moment-là. Il a tenu à rappeler ça. Pourquoi? Parce que justement, le Hajj, c'est l'occasion idéale pour rappeler aux hommes l'égalité de tous, l'égalité la plus parfaite. Et cette égalité, elle implique quelque chose. C'est-à-dire qu'en tant que musulman, quand on dit que les hommes sont tous égaux, ça ne doit pas rester au stade de théorie, de simple théorie qu'on affirme, oui, l'égalité des hommes, etc., blablabla. Non, non, ce n'est pas ça qui est voulu de nous. Ce qui est voulu de nous, c'est que cette égalité, on la traduise dans les actes. Et cette égalité, elle doit se traduire comment? Par la fraternité, al-ukhuwa. Al-ukhuwa, la fraternité. C'est ça qui nous a été enseigné. Et le prophète, alayhi salatu wasalam, il nous a parlé du mérite d'entretenir des relations avec son frère pour l'amour d'Allah. Vous connaissez le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que parmi les gens qui seront à l'ombre du trône de Dieu le jour du jugement dernier, il y aura rajulani tahabba fillah, deux êtres qui avaient l'affection, qui étaient attachés entre eux pour Allah. C'est ça, al-ukhuwa. C'est ça qui est requis de nous. Et le prophète alayhi salatu wa sallam, quand il a comparé la Ummah al-Islamiyya, qu'est-ce qu'il a dit? Il a comparé la Ummah al-Islamiyya à un corps, aux différentes parties d'un même corps. Et exactement comme on ne voit pas quelqu'un qui a de la fièvre, ou bien quand on a mal à la tête, vous avez déjà entendu votre main dire à la tête que ça c'est ton problème, moi ça va, pas de souci. Non. Quand on a mal à la tête, on a de la fièvre, c'est tout le corps qui transpire, c'est tout le corps qui est affecté. C'est pas l'autre qui va dire, c'est ton problème, t'as mal au ventre, débrouille-toi, t'avais pas à manger n'importe quoi. Et puis le reste du corps qui continue à fonctionner, non, ça forme un tout. Et le prophète, alayhi salatu wasalam, il a comparé la Ummah à ça. Il a dit que la Ummah doit être comme les différentes parties d'un même corps, que lorsqu'on a une partie du corps, où qu'elle se trouve, qui souffre, c'est l'ensemble de la Ummah qui doit souffrir. C'est vrai que ça va totalement à l'encontre de l'individualisme que l'on développe depuis des années. C'est un message totalement opposé. Mais il faut le rappeler. Il faut le rappeler parce que nous, musulmans, même nous, nous sommes devenus des frères par procuration. Vous savez c'est quoi les frères par procuration? C'est les frères qui allument la télé pour le 20h, qui regardent, qui disent « Oh là là, au Pakistan, c'est terrible !» C'est incroyable, oh, c'est terrible. Et puis, après, quand la pub est finie, il y a le match qui commence. Ça y est, le frère, il a oublié, et puis voilà. En gros, le frère, il existait juste les 5 minutes où la télé en a parlé. Après, le frère, on a autre chose à penser. La vie est quand même pas axée là-dessus. C'est ça. C'est ça la fraternité par procuration. Et c'est pas ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné une fraternité à temps plein. Tout le temps. Et le Hajj, c'est l'occasion d'en prendre conscience. Parce que justement, durant le Hajj, non seulement on voit l'égalité, mais on côtoie les frères. On côtoie des frères qui viennent de partout. Et c'est là qu'on voit la richesse de la Ummah. Et on voit la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, durant le Hajj, on a l'occasion de le voir et de l'apprendre. Donc ça, c'était le troisième élément que je voulais souligner, la troisième sagesse. Donc, rappel brièvement, rapidement. Les trois grandes leçons à retenir du Hajj, ce ne sont pas les seules. Les ulama, ils nous ont donné des dizaines de leçons que nous devrions apprendre du Hajj. Les trois grandes choses, c'est premièrement, le Hajj, c'est une leçon de soumission. Se soumettre à Allah, apprendre à se soumettre avant tout. Deuxième chose, le Hajj, c'est l'occasion, une opportunité pour développer l'amour d'Allah. Et c'est l'occasion pour une prise de conscience de l'importance de travailler sur cet amour d'Allah. Et enfin, le Hajj, c'est un rappel de l'importance de prendre conscience de l'égalité de tous les hommes et surtout de l'importance de la fraternité entre les musulmans. Ça, ce sont donc les trois éléments que j'avais tenu à rappeler. Alors maintenant, très rapidement, comme je l'avais dit, alhamdoulilah, il y a un certain nombre d'entre vous qui vont avoir l'occasion, cette opportunité exceptionnelle de faire le voyage le plus important de leur vie, c'est le voyage du Hajj. Il n'y en a pas d'autre. Ce voyage du Hajj, c'est une occasion exceptionnelle, et autant l'occasion elle est exceptionnelle, autant la préparation qui doit précéder ce voyage doit aussi être exceptionnelle. Parce que ce qui va suivre va dépendre en grande partie de ce qui précède. Ça forme un tout. Et notamment, avant le Hajj, il y a trois choses auxquelles il faut faire très attention. Tout d'abord, bien évidemment, le prophète, alayhi salatu wassalam, il l'a dit dans le hadith, « Innamal a'malu bin niyat ». La clé, c'est l'intention. C'est essentiel. Essentiel de faire, d'accorder beaucoup d'attention à corriger notre intention, à faire la bonne intention quand nous allons faire le Hajj. Quand on va aller accomplir le Hajj, ce n'est pas pour voir l'état d'avancée des travaux à Mecca, ce n'est pas pour voir les matériels qu'il peut y avoir, ce n'est pas pour voir du monde. On va faire le Hajj, on va accomplir un pèlerinage, un acte d'adoration qui est un des piliers de l'islam. Et les ulama, ils nous disent que pour qu'une intention soit correcte, il faut réunir trois choses. Premièrement, il faut que, bien évidemment, on ait l'intention de l'acte en soi. Donc, quand on va accomplir le Hajj, on sait ce que l'on va faire. Ça, on ne doit pas accomplir de façon machinale qu'on accomplit parce qu'on a lu dans tel livre, on a vu tel programme, que voilà, ça doit se faire comme ça, jour 1, jour 2, jour 3, ça se fait comme ça. Non, c'est une action vivante. C'est-à-dire qu'on accomplit, mais en accomplissant, on a conscience de ce que l'on fait et on agit en fonction de ce dont on est conscient. Donc, volonté de l'action. Deuxièmement, il faut dédier l'action exclusivement à Allah, ce que l'on appelle l'ikhlas. L'ikhlas, c'est ça. C'est que l'on ne fasse pas le hajj pour que les gens nous appellent hajj. Non, on ne fait pas le hajj parce que tout le monde y va et que c'est la mode. Non, on va faire le hajj parce que Allah m'a ordonné de le faire et je le fais exclusivement pour faire plaisir à Allah. Deuxième élément. Et troisième chose, c'est tout en accomplissant le hajj, d'avoir l'intention d'obtenir les récompenses promises par Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que le prophète alayhi salatu wa salam, il a appelé al-ihtisab. Al-ihtisab, c'est d'espérer les récompenses promises par Allah. Donc quand on va accomplir le hajj, c'est également pour ça. Deuxième chose à faire avant d'aller au hajj, c'est bien évidemment de procéder tawbatan nasuh. C'est de procéder à un repentir sincère. Faire un repentir sincère de tous les péchés que l'on a pu faire au cours de sa vie. Et Allah seul sait combien ces péchés sont importants. Si on a causé du tort à Allah, en guillemets, on ne cause pas du tort à Allah, mais si on a violé nos devoirs, obligations envers Allah, eh bien, on remplace ces obligations dans la mesure du possible. On prend les dispositions. Si par exemple, pendant des années, on ne s'est pas acquitté de la zakat, eh bien, on prend les dispositions pour s'acquitter de cette zakat. Si on a manqué des prières, la salah, on remplace ces prières. Et si on n'a pas le temps de tout remplacer, eh bien, on prend des résolutions, bien évidemment, pour déjà ne plus manquer de prière, mais également pour prendre des dispositions pour s'acquitter de ses dettes envers Allah. Et de la même façon, si on a porté atteinte au droit d'autrui, eh bien, obtenir le pardon d'autrui. Ça aussi, c'est une obligation. Les ulama, ils nous disent, Imam Nawawi, rahimahullah, parmi les conditions du repentir sincère, il dit bien que c'est de réparer le mal que l'on a fait. Parce que c'est bien beau d'escroquer un frère et de lui prendre 10 000 euros, et puis après de se dire, Allah, c'est très mal, je me repens devant Allah, et on garde les 10 000 euros. Mais non, ça ne passe pas comme ça. C'est que d'abord, on commence par réparer le mal, on restitue ce que l'on a pris de façon illégitime, et après, on demande pardon à Allah. Parce qu'on le sait, bien. En ce qui concerne les huququl ibad, les droits d'autrui, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous pardonnera pas tant que la personne lésée ne nous pardonnera pas. Le pardon de Dieu est conditionné au pardon de la personne. C'est comme ça. Le jour du jugement dernier, le prophète alayhi salatu wassalam, dans un hadith, il nous a dit que vous connaissez c'est qui le ruiné? Le ruiné, vous croyez que c'est celui qui n'a plus d'argent? Non, le ruiné, c'est celui qui viendra le jour du jugement dernier avec une tonne de bonne action, mais qui en même temps aura causé du tort à un tel, aura insulté un tel, aura pris les biens d'un tel. Et chacun viendra lui réclamer la réparation. Et ce jour-là, il y aura un seul moyen pour payer. Ce sont les bonnes actions. Donc il donnera ses bonnes œuvres. Et après arrivera un moment où il n'aura plus de bonnes œuvres. Et il aura encore des dommages à réparer. Et Allah subhanahu wa ta'ala donnera à ces gens de lui donner leur péché. Et c'est ainsi qu'il était venu avec une montagne de bonne action, il repartira avec une montagne de péché et sera jeté en enfer. Tout ça pourquoi? Parce que justement, on aura négligé nos obligations envers autrui. Eh bien, quand on va faire le hajj, vous le savez autant que moi, c'est une deuxième naissance. C'est une deuxième naissance. Le prophète, alayhi salatu wasalam, c'est textuellement ce qu'il nous a dit. « Raja'aka yaumi waladatuhu ummuh » Qu'il revient du hajj exactement pur des péchés comme le jour où il était venu au monde. C'est une renaissance, le hajj. Mais pour que cette renaissance elle soit parfaite, eh bien, il faut absolument obtenir le pardon d'Allah et le pardon des gens avant de partir pour le hajj. Donc ça, c'est la préparation avant le hajj, et puis bien évidemment, durant le voyage. Durant le voyage, il est très important de respecter les obligations, de faire, voilà, on ne va pas faire le tawaf ziyara, par exemple, avant, on ne peut pas arriver et dire que, bon, le 10, finalement, il y aura trop de gens. Finalement, moi, je vais faire le tawaf ziyara le 5, il y a un peu moins de monde. Non, ça ne marche pas, il y a des règles, il faut suivre les règles. Sinon, ce n'est pas un hajj, c'est du tourisme. Donc, on a des règles à respecter, mais les règles, ce n'est pas tout. Le prophète, alayhi salatu wassalam, et même dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il décrit le hajj, qu'est-ce qu'il dit? Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja, fala rafath, wala fusuq, wala jidal fil hajj. Allah, il met en avant trois comportements à bannir durant le hajj. Tout ce qui est les propos qui est en rapport avec les choses intimes, les insultes, etc., sont à bannir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, il a dit exactement la même chose. Il faut faire extrêmement attention à l'attitude que nous avons sur place. Faire attention à ne pas causer du tort, à ne pas s'énerver, à prendre, parce que pour faire un bon hajj, obligatoirement, il faut de la patience. On va être contrarié. Désolé, hein, mais c'est comme ça. C'est que le voyage, il est ainsi fait qu'à un moment ou à un autre, on est contrarié, il fait chaud, il y a du monde, etc. Mais c'est là où on doit prendre conscience que je suis venu ici pour Allah, j'oublie tout le reste. Et on fait attention à ce que l'on dit. On fait attention à ce que l'on regarde. La protection du regard est essentielle. Vous allez dire, oui, mais là on va à Mecca quand même. Ben oui, justement. On est dans le lieu le plus saint, le plus sacré. Il ne faut quand même pas être idéaliste. À Mecca, il y a des endroits commerciaux, etc. La fitna est également présente au niveau visuel. Faire très, 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 très attention à la protection du regard. Faire très attention à toutes ces choses-là. Et c'est ainsi qu'en faisant attention à ça, que l'on pourra faire un hajj que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a qualifié de hajj mabrour. Al-hajj al-mabrour, laysa lahu jaza illa al-jannah. Un hajj qui nous conduira, incha'Allah, jusqu'au paradis. Mais pour cela, il faut que ce ne soit pas juste un hajj gestuel, où on se contente de faire les actes d'adoration, de telle date je fais telle chose, là je fais telle chose. Non! Il faut que durant toute la période où on est sur place, on reste conscient que je suis dans le lieu où se trouve la maison d'Allah, où les compagnons ils ont vécu là, où le prophète alayhi salatu wasalam, a vécu là. C'est le lieu le plus sacré sur terre, les jours les plus sacrés de l'année. Je fais extrêmement attention à ce que je dis, à ce que je fais, à ce que je regarde. Donc ça aussi, ça fait partie du hajj. Et enfin, dernier mot, et je vais conclure là-dessus, Inch'Allah, c'est que, comme je l'avais dit au départ, les jours qui viennent, très bientôt, c'est la première décade de Zulhijja qui va débuter. Le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il dit dans le hadith ? Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Que les 10 premiers, la première décade du mois de Zulhijja, ce sont les jours de l'année où les bonnes actions sont les plus appréciées par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est les jours où les bonnes actions sont plus appréciées. Dans d'autres hadiths, le prophète, sallallahu alayhi sallam, il a encouragé à multiplier le takbir, at-tahlil, de faire le dhikr d'Allah durant ces jours, de, par exemple, jeûner durant ces jours dans la mesure du possible, de faire attention, bien évidemment, accorder une importance particulière au jeûne du 9e Zulhijjah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a parlé du mérite exceptionnel du jeûne du jour de Arafah, que ça permet, dans un hadith, il dit que ça efface les péchés d'une année, et dans un autre hadith, il dit que ça efface même les péchés de l'année à venir, les petits péchés. Donc, ce sont des jours exceptionnels qui arrivent. Et également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien évidemment, nous a exhorté très fortement à accomplir l'uzhiyya, à sacrifier un animal. Ça fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, toutes ces actions qui arrivent, ça, ce n'est pas réservé seulement aux hajji, ceux qui vont aller faire le hajj. Non, ça concerne tous les musulmans où qu'ils se trouvent. La première décade de Zulhijja, il y a certains ulama qui disent que les jours de cette décade ont plus de valeur que les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Il y a des ulama qui nous disent que les 10 meilleures nuits de l'année, ce sont les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, la dernière décade. Par contre, les 10 meilleurs jours de l'année, c'est les 10 premiers jours de Zulhijjah, d'après un tafsir, ou al-Fajr, ou al-Layalin Ashr. Les nuits dont il est question ici, d'après certains mufassirin, eh bien, ce sont bien les nuits de la première décade de Zulhijjah. Donc, ce sont des jours exceptionnels. Il faut absolument essayer de profiter. Ce sont comme ça des occasions. On a vu au départ, j'avais commencé là-dessus et je vais conclure là-dessus. Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi, il a porté son choix sur certaines périodes, sur certains lieux. Et bien là, justement, arrive une période où le choix d'Allah s'est porté. Et bien, à nous de profiter et de tirer profit de ces jours-là et de profiter de ces jours pour nous remettre en question et de faire des œuvres qui nous rapprocheraient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah me donne à moi-même d'abord, à nous tous, l'opportunité de comprendre et de mettre en pratique. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.